passeur d'humanité, Michel Larcher.
Bonjour Françoise Becker.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très bien.
Alors, il se trouve qu'on a aujourd'hui dans le bureau également un de vos camarades du cercle de généalogie du pays messin, en l'occurrence Vincent Barbaraz, qui est président depuis peu, je crois.
Oui, bonjour.
Voilà. Alors, ce n'était pas exactement prévu, mais ce n'est pas grave, on va cheminer ensemble. Alors, Françoise, vous avez été pendant une vingtaine d'années membre du comité de ce cercle. Alors, je dis vous avez été parce que vous venez juste de décider de prendre votre retraite en quelque sorte, mais pas tout à fait, puisque vous demeurez membre du cercle de généalogie. Et il s'agit, on l'a dit, du cercle de généalogie du pays messin. Vous êtes à ce jour en charge de répondre, j'ai cru comprendre, aux requêtes des personnes qui recherchent des renseignements sur leurs aïeux issus du pays messin. Alors, nous avions reçu le président du cercle généalogique du pays messin voilà 2 ans et demi. Votre venue est l'occasion pour nous de refaire un point sur ce goût qui saisit de plus en plus de Français de faire leurs arbres généalogiques. Alors, bienvenue à RCF Jéricho Moselle dans Passeurs d'Humanité, l'émission des associations et de leurs bénévoles. Françoise Becker, on le disait à l'instant, vous êtes membre du cercle généalogique du pays messin depuis quand à peu près?
Depuis 1998, voilà. Date de ma retraite.
Voilà. Donc en fait, la généalogie a pris une part importante de ce nouveau temps libre dont vous avez hérité au moment de la retraite.
Exactement. Ça a été d'abord un petit peu et très vite, on y passe un temps beaucoup plus important. Où pratiquement j'allais aux archives tous les jours. Tous les
voilà.
Jours.
Alors je dis voilà parce que je fréquente un certain nombre de gens qui s'occupent à faire des recherches généalogiques et on a le sentiment que c'est une forme d'addiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse?
Tout à fait. On dort avec la généalogie, on vit avec la généalogie et elle nous aide à vivre.
Voilà. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la généalogie, François? Dites-nous.
La généalogie, c'est retrouver toute la famille, mais aussi bien les gens qui descendent de nous que nos ascendants. Alors, c'est un long cheminement, c'est une recherche minutieuse. Ça pourrait s'apparenter à une enquête policière pour retrouver tous ces gens du passé et du présent aussi.
C'est en cela que c'est passionnant. Et il s'agit pour une partie de la généalogie de résoudre des énigmes en quelque sorte, parfois.
Exactement, parce que tout n'est pas évident. Il faut parfois passer par des documents plus différents des actes de naissance, de mariage et de décès. Il faut trouver des voies différentes pour accéder à des renseignements sur nos ancêtres.
Voilà. Alors, je me suis un peu intéressée au mot généalogie pour retrouver un petit peu les racines. Et alors, j'enfonce sans doute des portes ouvertes pour un certain nombre de nos auditeurs, mais c'est quelque part, dans généalogie, on retrouve le mot génération. Et logis, c'est tout ce qui relève d'un ensemble de règles, de toute l'information autour des générations. Et donc, c'est en effet partir à la recherche de ses racines, finalement.
Exactement.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Vincent Barbaraz?
Moi, je suis tombé dans la généalogie voilà une trentaine d'années. Et je suis parti d'un document que j'ai découvert dans une commode chez mes parents, qui était le fameux Ahnenpass.
Alors, on peut traduire peut-être pour nos auditeurs.
Ahnenpass, c'est un peu un passeport des aïeux qu'avaient demandé les autorités allemandes pour certifier qu'on n'était pas d'origine juive.
Alors, du temps de l'occupation allemande.
C'est de l'occupation allemande. Mm-hmm. Et j'ai posé la question à mes parents de savoir ce que c'était que ce document, puisqu'en fait, il y avait un certificat de la commune de naissance de mes grands-parents. Et ils m'ont dit qu'il fallait fournir ce papier pour être justement... pour prouver son origine non juive.
Pour ne pas être persécuté.
Exactement.
Voilà. Alors, je crois que vous n'êtes pas le seul à avoir posé des questions autour de ce document. Et on a rencontré, je crois, d'autres généalogistes que ce document avait amené à fouiller en quelque sorte davantage dans leur histoire familiale. Alors, on a parlé de généalogie, on comprend ce que c'est. On se dit la généalogie en Lorraine. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous êtes organisé comment en Lorraine? Alors, nous avons ici deux éminents membres du cercle de généalogie du pays messin. Mais quand on n'est pas de Metz, comment ça se passe?
Alors, quand on n'est pas de Metz, moi j'ai découvert les archives départementales de la Moselle alors que j'habitais l'Alsace, puisque mes aïeux sont d'origine mosellane. Et en fait, il y a déjà l'approche par les archives départementales. Et à côté des archives départementales, souvent, on a des cercles généalogiques qui sont des associations, je dirais, à but non lucratif, et qui rassemblent des passionnés de la généalogie, qui se constituent en associations pour en fait s'entraider et faire des recherches. Et ce qui arrange beaucoup, je pense, les archives départementales, puisque toutes les sollicitations qu'on peut avoir de personnes qui s'y intéressent sont transitées directement au niveau des cercles généalogiques.
D'accord. Ce qui permet de répondre à une partie des sollicitations des archives départementales. Alors, nous sommes en Moselle avec l'histoire compliquée de la Moselle qui a été assez régulièrement traversée par diverses hordes qu'on ne nommera pas ici, donc parce que c'est une histoire compliquée. Alors j'imagine que dans ce cas-là, inévitablement, les archives, eh bien, quand on recherche des documents dans le passé, passent inévitablement par la langue du voisin, parce que les frontières ont varié au fil du temps. Et puis, les vicissitudes de cette langue, parce qu'au-delà de la langue, de la pratique de la langue, il y a aussi l'écriture. Alors, est-ce que l'un et l'autre, vous avez été confrontés à cela?
Tout à fait, tout à fait. Et actuellement encore, c'est un gros problème pour tous ceux qui font de la généalogie, qui sont immanquablement obligés de passer par des actes en allemand écrits en gothique. Et on ne trouve pratiquement plus personne qui sait les lire. Récemment au cercle, il y avait deux Allemands qui eux-mêmes ne savaient pas lire les actes de cette période entre 1870-1918. Mais à Metz et dans le pays messin, c'est quand même plus limité, c'est 1892 à 1918. Avant, il y avait une tolérance sur des actes en français.
D'accord. Alors, je crois, Vincent, que vous êtes intéressé au Sutterlin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est?
Il se trouve très simplement que quand j'étais en Alsace et que j'ai démarré mes travaux de généalogie, je me suis heurté très vite à ce problème de langue, parce qu'au-delà des actes civils qui sont relativement normés, c'est-à-dire que tous les actes de naissance, de décès et autres prennent la même forme, donc une fois qu'on a déchiffré le formulaire, on arrive à déchiffrer un petit peu le reste, mais il y a aussi les actes notariés, et là c'est de l'écriture libre. Et donc j'ai fait 2 années de paléographie, qui sont dispensés par un archiviste de Strasbourg. Et il se trouve qu'en Alsace, ce type de cours, enfin, ou d'enseignement est donné, alors que c'est assez compliqué dans le reste du territoire. C'est-à-dire que quand on cherche des travaux de paléographie à Paris, par exemple, à l'école des Chartes ou autre, c'est essentiellement de la langue française.
Voilà, et en Moselle, alors?
Et en Moselle, finalement, on est également confronté au Sutterlin. Donc il se trouve que je sais lire le Sutterlin pour l'avoir pratiqué. Mais il faut effectivement le pratiquer assez souvent. Et tout dépend aussi du style d'écriture. Enfin, c'est comme aujourd'hui, du style d'écriture de chaque scribe qui a fait l'acte.
Alors, sans rentrer dans les détails, pour nos auditeurs, le Sutterlin, c'est ce qui a suivi le gothique avant d'arriver à l'écriture actuelle.
Alors, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que le Sutterlin était une simplification du gothique pour être plus facilement écrit avec la plume.
La plume d'oie d'autrefois.
La plume d'oie, parce qu'à un moment donné, il y avait des soucis pour bien faire les lettres. Et quand on regarde le Sutterlin, c'est très compliqué de distinguer un N, un M, un E. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est beaucoup plus simple à écrire. Mais ensuite, il faut connaître la langue. Parce que non seulement il faut connaître le Sutterlin, mais en plus, il faut connaître la langue allemande. Voilà. Et à ce moment-là, c'est ça qui rend la tâche un peu plus difficile.
Et je comprends qu'il n'est pas inutile de connaître un petit peu de latin aussi.
Tout à fait.
Alors, on ne va pas décourager nos auditeurs quand même. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Eh bien, merci pour ces informations.
Passeurs d'humanité sur RCF Jéricho-Moselle.
De retour à l'émission Passeurs d'humanité avec Françoise Becker et Vincent Barbaras, tous deux membres du cercle généalogique du pays messin. Alors, ce qui nous intéresse dans cette seconde partie, c'est le parcours des bénévoles. Françoise, comment se fait-il qu'au moment de votre retraite, ce soit plutôt la généalogie qui vous ait interpellée plutôt que le yoga ou bien l'art et la manière de faire des gâteaux ou je ne sais quelle autre activité?
J'ai plusieurs cordes à mon arc, je n'ai pas fait que ça. Voilà. Mais la généalogie, c'est pour répondre à des secrets de famille ou à des questions de famille qui se posaient de génération en génération. Et ma maman, bien entendu, un jour m'a pris sur ses genoux pour me dire « Tu sais, nous descendons de Saint-Pierre Chanel. » Enfin, plutôt de la famille de Saint-Pierre Chanel.
Oui.
Et cela m'a marquée petite, et puis ça m'a poursuivie en étant grande. Et le jour de ma retraite, j'ai dit à mon mari, comment faire pour trouver une réponse à cette question? Alors il m'a dit, tu vas aux archives départementales, tu fais ta généalogie, et...
Tu verras bien.
Tu verras bien. Et c'est ainsi que je suis arrivée aux archives, je n'ai rien trouvé, je suis descendue au cercle, j'ai été accueillie par le président de l'époque, monsieur... Louillot, qui n'a pas su me donner de réponse, mais qui m'a dit qu'il fallait que je travaille sérieusement. Donc j'ai cherché, et ne trouvant pas le mariage de mon ancêtre, qui effectivement s'appelait Denis-Joseph Chanel,
oui,
et qui vivait à Saralbe, donc pas loin de Sarreguemines, je ne le trouvais pas, je n'avais pas de naissance, j'ai trouvé son décès. Il était soldat sous Napoléon, mort en 1805, blessé de partout. Enfin, je n'ai pas exactement la nature de ses blessures. Et à ce moment-là, j'ai commencé à le chercher. Et comme je ne trouvais pas, j'ai été chercher Saint-Pierre Chanel. J'ai été voir d'où était Saint-Pierre Chanel.
Dites-nous, Françoise, on veut savoir.
J'ai fait la généalogie à l'envers, il ne faut jamais faire ça. Alors, Denis-Joseph Chanel étant militaire, je suis allée aux archives à Vincennes.
Oui.
Vous voyez que ça mène très loin.
Oui.
Puis je suis allée dans l'Ain où est né Saint-Pierre Chanel. Il est né à Marbeauce, dans un petit village non loin de Bourg-en-Bresse, et j'ai passé des vacances là-bas pour le retrouver.
Voilà.
Quand j'ai eu fait sa généalogie, j'ai pris, toujours dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, aux archives départementales, j'ai pris tous les Denis-Joseph Chanel nés entre telle période et telle période.
Oui.
C'est absolument... faux, il ne faut pas faire sa généalogie comme ça. Il faut partir avec des points sûrs et pas avec des suppositions.
Bon.
Et ça a pris 5 ans. Je n'ai rien trouvé dans les premières années. Et un beau jour à Strasbourg, en faisant des recherches sur une autre branche, j'ai trouvé le mariage de mon Denis-Joseph Chanel. Comme il était militaire et qu'il avait bougé, et il a épousé la blanchisseuse du régiment, qui, elle, était de Saralbe, mais ils se sont mariés de l'autre côté de la frontière, entre les deux départements. Et voilà comment je suis arrivée à trouver qu'il était effectivement, lui aussi, né à Marmouze, dans l'Ain.
Voilà, et donc vous êtes en lien.
Avec Saint-Pierre Chanel, oui.
Voilà, et bien écoutez, voyez, chers auditeurs, quel genre de découverte vous pouvez faire quand vous êtes surtout très persévérant, à l'image de Françoise, qui a une persévérance quand même admirable, pour trouver l'information. Alors, je crois savoir que vous avez eu une carrière d'enseignante, Françoise.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Et vous pensez que c'est important de mieux connaître ses origines?
Certainement, oui, il faut savoir d'où on vient, c'est important pour tous les êtres, je crois, on le voit avec ceux qui ne connaissent pas leurs parents, qui sont abandonnés,
oui,
et qui sont en quête de famille et en quête même de cousins pour avoir l'impression d'exister dans un milieu social.
D'accord. Et donc, en tant qu'enseignante, vous pensez que c'est un point sur le... On ne peut pas tout faire quand on est à l'école. Hein. Il faut que les familles et les parents, bien sûr, éduquent leurs enfants. Mais vous pensez que, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut aborder à l'école? Comment retrouver un petit peu ses racines ou...
J'ai fait faire à pratiquement tous les ans, dans un niveau scolaire de cours élémentaire,
oui,
la recherche de sa famille proche.
D'accord.
Voilà. Et j'ai des élèves qui m'ont apporté des arbres très complets déjà.
Oui.
Et j'ai vu que ça les passionnait.
Voilà, on se passionne assez rapidement quand on comprend qu'on est une des branches d'un arbre, très certainement. Alors, est-ce que c'est important d'entrer dans une association quand on fait ce genre de recherche?
Disons, je trouve avec le recul, au départ, je n'étais pas dans une association. mais on se trouve très vite seul. Et j'ai quand même l'impression qu'on réinvente l'eau tiède. Et le fait d'être dans une association, et notamment notre cercle, on apporte de la méthodologie, on apporte l'ouverture à des bases de données, à des ouvrages qu'on ne connaît pas. Et je dirais qu'on gagne beaucoup en temps et en méthode. Et c'est ça qui est très important, parce que bon, Françoise vient de dire qu'elle a passé quelques années avant de trouver un renseignement. C'est vrai que moi, ça fait 25 ans que je suis, pas tous les jours bien sûr, sur l'arbre, mais il faut avoir de la patience. Mais la patience ne suffit pas seulement, il faut aussi avoir de la méthode et savoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas deviner tout seul, ou alors on va perdre beaucoup de temps. Et les anciens de notre cercle sont justement là pour épauler et guider les personnes qui viennent. On a souvent des visites de gens qui découvrent, enfin qui démarrent vraiment d'une manière, comment dire, complètement basique. Et la première chose à faire, c'est de leur dire, bah, écoutez, prenez déjà votre livret de famille, commencez par là.
Est-ce qu'il faut être féru d'informatique ? Est-ce que quelqu'un qui aurait eu un métier très, très à l'opposé de tout ce qu'impliquent les recherches numériques peut quand même prétendre
Oui, alors moi j'ai commencé comme tout le monde, voilà 30 ans, 35 ans, avec des feuilles, double, petit carreau, double
comme
page,
souvent, oui,
avec du scotch, le crayon, la gomme, et on raturait. Et à un moment donné, on se rend bien compte qu'on est dépassé par le nombre d'informations qu'on arrive à glaner. Pour y voir clair, parce qu'à un moment donné, à l'époque, il y avait quand même une dizaine d'enfants par couple, et donc à un moment donné, avec les mêmes prénoms, et donc des informations. Et donc l'outil informatique vient compléter. Alors il y a des logiciels qui sont simples d'abord, et en fait là aussi le cercle peut aider la personne à l'utiliser. L'idée c'est quand même que l'informatique vienne en soutien à la recherche, pour notamment détecter les doublons, ou détecter des incohérences. Parce qu'à un moment donné, entre l'oncle, la tante, le cousin, etc., c'est quand même très compliqué. Et là, l'outil informatique vous permet d'y voir plus clair.
Est-ce que ça a aussi changé quelque chose à vous, dans votre vie et la perception de là d'où vous venez, comme chacun d'entre nous, ça a changé le fait de
moi,
savoir, ça a changé quelque chose.
C'est vital. Dans ma fratrie, je suis le seul à m'être intéressé aussi conséquemment à cette question-là, mais il se trouve juste qu'on a vécu en Alsace, et j'ai découvert au travers du document dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on était en fait mosellan. Alors il n'y a pas de mal à ça.
Mais non,
c'est
on
que
est
on
d'accord.
A...
Hein.
Mais c'est que ce qui était bizarre, c'est que j'avais l'impression qu'on a toujours été alsacien. Il n'y avait qu'une génération de différence. Mon père est né à Sarrebourg, donc déjà lui aurait pu dire, mais non, mais moi je suis mosellan, je ne suis pas alsacien. Mais en plus, on parlait l'alsacien à la maison. Et alors, ce qui est le plus curieux dans l'histoire, c'est que l'origine ultime, enfin, les recherches m'ont poussé à trouver l'ancêtre le plus ancien qu'on a pu détecter, eh bien, il vient d'Alsace, en fait. Hein. Ils sont partis en Moselle et nous, on est revenus. Voilà.
D'accord. Donc, vous jugez que c'est une étape importante.
Oui, ça permet quand même de savoir d'où est-ce qu'on vient, quelles sont les racines. Enfin, on est fondamentalement enraciné dans l'Est. Et ça me paraît important, que ce soit l'Alsace ou la Moselle, peu importe. Mais au moins, j'ai résolu cette question-là. Et moi, je trouve que c'est plus clair dans ma tête de savoir d'où est-ce que je viens.
D'accord. Bien, merci pour ces précisions. On va poursuivre dans une prochaine partie sur un petit peu la manière dont on peut procéder pour trouver ses racines.
Passeur d'humanité, Michel Larcher.
Alors, vous êtes dans Passeur d'humanité avec Françoise Becker, avec Vincent Barbaras. Tous les deux sont membres du cercle de généalogie. Françoise, elle est membre du comité depuis 20 ans. Et puis, Vincent Barbaras est le tout récent, on va dire, président du cercle. On l'a vu à l'instant, les outils informatiques aujourd'hui ont pas mal changé la donne. Et pour faire son arbre désormais, c'est pas obligatoire, mais c'est sans doute plus facilitant d'avoir un ordinateur et puis accès à quelques logiciels. Alors, ces logiciels, ils sont payants?
Alors, pour ma part, je pense que les logiciels peuvent être gratuits jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que, si je prends, je ne vais pas citer de marque, puisque au niveau de la publicité, mais il y a des logiciels qui sont, à un moment donné, gratuits, qui sont en ligne. C'est-à-dire que vous déposez vos informations et vous pouvez faire votre arbre, mais dès que vous voulez aller plus loin, à un moment donné, il faudra forcément payer. Donc l'avantage, c'est d'acheter son logiciel, c'est quand même des sommes qui ne sont pas très élevées, et ça vous apporte quand même un confort d'utilisation.
Alors le plus simple, c'est peut-être tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez, Françoise, de prendre sa carte dans un club de généalogie, c'est bon marché. C'est combien au Pays Messin?
L'adhésion au cercle, c'est 20 euros et c'est vraiment pas cher, hein, si vous comparez au golf.
Voilà, et imaginons que vous ayez besoin d'informations en Meurthe-et-Moselle, vous pouvez avec cette même carte accéder à...
Voilà, le cercle du Pays Messin appartient à l'UCGL. Et d'abord au cercle de Moselle, mais aussi à l'UCGL qui rassemble les 4 départements lorrains.
D'accord.
Et toutes les informations qui sont données par l'un des départements sont disponibles pour tout le monde.
Ben voilà qui est très pratique. Donc on comprend que quand on va dans un cercle, qu'il soit d'ailleurs du Pays Messin ou d'ailleurs, eh bien on bénéficie de l'expérience des anciens, des gens du comité qui sont déjà très présents, qui peuvent vous expliquer, vous accompagner, et qu'en plus, je crois que vous prêtez aussi des ordinateurs dans certains cas.
Alors, il se trouve que nos membres sont des membres, comment dire, qui font des recherches, pas simplement pour leur propre arbre, mais qui font carrément des relevés de villages entiers. Et à partir de ce moment-là, comme ils travaillent toute la semaine sur ces recherches, donc ils ne sont pas forcément que personnels, c'est au profit de la communauté des généalogistes, on leur prête un outil informatique pour pouvoir recenser ces bases de données.
Vous éditez des livres, je crois.
Alors à partir de là, on peut décider d'éditer un livre en fonction, si la commune est intéressée, parce qu'en général, ça se fait avec la... en accord ou du moins en complicité entre guillemets avec la mairie qui à un moment donné peut y trouver un intérêt, et à ce moment-là il est décidé d'éditer un livre.
Alors et ces livres ils sont un peu spéciaux, je veux dire c'est pas des livres qu'on peut lire facilement, c'est des livres de généalogistes.
Disons c'est le travail qui consiste à passer d'un acte qui est parfois un peu illisible vers un document écrit de manière informatique, avec un logiciel de traitement de texte, et donc qui est complètement utilisable sans difficulté aucune.
D'accord.
Mais par contre, c'est rébarbatif, parce que quand vous avez 400 pages d'indications sur tous les habitants, etc., mais c'est un document très utile pour les généalogistes. Les gens qui viennent chez nous faire des recherches, ils prennent le livre de tel et tel village, ils ont leur nom, leur patronyme, ils regardent et ils voient tous les patronymes qui figuraient dans ce village. Donc c'est un gain de temps pour ces gens-là.
D'accord. Et alors, j'ai cru comprendre que vous avez pratiquement couvert l'essentiel du nombre de villages de Moselle.
Je pense que le Pays Messin est presque entièrement terminé. Il reste 2 ou 3 villages qui ne sont pas terminés, Novéan, Rosériol, enfin... Mais par contre, la région de Sarreguemines, de Forbach sont également totalement terminées. Mais Cercle de Sarrebourg, qui a moins d'adhérents et moins de bénévoles, n'a pas encore refait les relevés de toute cette région-là, Dieuze et Sarrebourg.
C'est en cours.
Ça progresse, mais pas vite.
D'accord. Ça dépend, j'imagine, des ressources que l'on a, des chercheurs,
des bénévoles,
des volontaires, etc.
Oui, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que notre cercle a plus de 200 adhérents. Et donc, avec des gens très motivés, on se réunit tous les mercredis. Il y a une permanence tous les mercredis, tous les samedis matins. Et donc, quelque part, on entretient une certaine dynamique. Et c'est comme une ruche le mercredi quand les gens
D'accord.
viennent chez nous. Et donc, on est un petit peu victime de notre succès. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque les gens viennent et adhèrent à notre association, ils ont à disposition des bases de données en ligne gratuitement. Où ils peuvent consulter, des archives en ligne. Mm-hmm. Ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement chez eux, ils peuvent le faire chez eux, mais c'est contre paiement. Mm-hmm. Alors que chez nous, c'est en libre service.
Voilà. D'accord. Alors, j'ai aussi compris que ces livres donnaient lieu à des expositions, parfois dans certains villages, d'anciennes photos.
Oui, alors il y a forcément, quand on décide d'écrire un livre sur un village, forcément, il y a une manifestation de présentation du livre. Il y a même des appels à la pré-vente. L'idée, c'est de savoir si les habitants sont prêts à acheter ce livre-là pour pouvoir l'imprimer. Le dernier livre de Lessie, on l'a imprimé à plus de 200 exemplaires. Et donc, on avait une salle des fêtes pleine. Et souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a la partie généalogie, mais il y a aussi un travail sur l'histoire du village qui accompagne en fait la généalogie.
Oui, c'est des éléments contextuels.
Contextuels et qui donnent quand même un éclairage très intéressant à ce... Voilà.
D'accord. Très bien. Alors, des actions dans les prochains mois, Vincent Barbaras?
Des actions dans les prochains mois, l'idée c'est de mieux faire connaître encore notre cercle du pays messin, c'est de peut-être passer par des expositions à l'occasion ou d'interventions quand on nous sollicite. Par exemple, à la médiathèque récemment, on nous a sollicité pour animer un atelier de généalogie. Et,
médiathèque de Metz.
Médiathèque de Metz, voilà. Donc on répond aux sollicitations, mais notre idée c'est à la fois d'animer l'association et peut-être d'avoir des contacts plus réguliers maintenant, à nouveau, après le Covid, avec l'Alsace, peut-être. Il y a un centre, par exemple, d'histoire des familles, qui est spécialisé dans le Haut-Rhin. Il y a peut-être l'École des Chartes. Il y a aussi un salon national au niveau de Paris, sur la généalogie. Donc l'idée, c'est à la fois d'enrichir nos adhérents et en même temps d'attirer des nouveaux adhérents pour faire les travaux de généalogie.
Très bien. Ben écoutez, on a beaucoup appris au cours de cette émission. J'espère que nos auditeurs ont vu certaines de leurs questions trouver des éléments de réponse. Le mieux, c'est sans doute de se rapprocher du cercle si on est intéressé. Alors, on va peut-être rappeler son adresse physique, Françoise.
Le cercle généalogique qui fonctionne tous les mercredis, toute la journée, de 8h30 à 16h30, et le samedi matin, de 8h30 à midi, se situe dans les archives départementales au rez-de-chaussée. C'est 1 allée du Château à Saint-Julien-les-Metz.
D'accord.
Nous avons également un site internet. Il suffit de taper « Cercle généalogique du pays messin » et on trouve tout ce qu'il faut sur ce site, y compris les contacts. On peut également nous solliciter pour des recherches éventuellement, mais on a toutes les informations concernant notre cercle.
Vous avez des gens qui téléphonent de très loin ?
De très très loin, oui.
Oui. Dont les ancêtres étaient
Moselle. De la Martinique. Et le dernier courrier auquel j'ai répondu qui venait de l'étranger, c'était un Norvégien qui a été absolument ravi qu'on lui trouve l'acte qu'il recherchait depuis très longtemps.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces éléments. Merci Françoise Becker.
Merci.
Merci Vincent Barbaras, tous les deux membres du cercle généalogique du pays messin. Bravo pour votre engagement. Je crois que c'est très utile à tous ceux qui cherchent à comprendre d'où ils viennent. Et on a bien compris que ce loisir est un passe-temps chronophage, mais passionnant. Alors, tous ceux de nos auditeurs que la généalogie intéresse ou est susceptible d'intéresser peuvent prendre contact avec le Cercle du Pays Messin, dont on a compris que les coordonnées figuraient sur le site du Cercle. Alors, à très bientôt. N'hésitez pas à revenir quand vous aurez d'autres nouvelles. Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à Tristan à la technique. Retrouvez Passeurs d'Humanité sur le site internet de la radio, l'application RCF et en podcast. À très bientôt pour un nouveau numéro de Passeurs d'Humanité. Prenez soin de vous. Bonne semaine à tous.